Chapitre 16. La résurrection du dragon. L'aurore et la lumière du jour ne se confondaient pas au désert des pluies. Le soleil, insignifiant à son lever, devait monter suffisamment haut pour percer le dais luxuriant de la forêt. Reine Houprous observait le premier ray de clarté qui filtrait à travers un interstice entre la boue et le cristal. Le fût de bois sorcier dans son dos, l'épaisse plaque de cristal qui les avait abrités, la boue qui les entourait, c'étaient là les limites de son univers. Il était mi-accroupi, mi-appuyé au fût. La voûte détachée du dôme les avait protégés de la chute des débris, mais la vase et l'eau qui montaient avaient fini par les atteindre. Leur abri précaire avait fait office de barrage provisoire. La boue grasse, recouverte d'une couche d'eau glacée, lui arrivait à la cuisse. Il tenait Selden dans ses bras, partageant la maigre chaleur de son corps. Le garçon s'était endormi malgré tout. L'épuisement et le désespoir avaient eu raison de lui. Rain ne le réveilla pas. La pâle clarté était un faux espoir. Elle provenait d'une petite fissure très haut au-dessus de leur tête. Bien que la plus grande partie du dôme et du plafond de l'édifice se soit effondrée, l'épaisse couche de racines enchevêtrées retenait encore la terre. Seule une fine crevasse frangée de racines laissait pénétrer le jour. Même s'il avait été en mesure de déblayer en raclant avec ses ongles la vase et les débris qui les entouraient, il ne pourrait jamais atteindre le petit trou pour s'échapper. Alors qu'il observait la lumière qui gagnait en intensité, il sut, désespéré, qu'il ferait cette tentative. Le garçon dans ses bras se réveillerait. Il dégagerait un passage dans la boue, se mettrait debout sur le fût de bois sorcier et appellerait à l'aide, mais personne ne les entendrait. Et il mourrait ici, et de mort lente. Il espérait que Malta avait connu une fin plus rapide. Selden remua, leva sa tête qui reposait sur l'épaule de son compagnon. Le déplacement du poids provoqua une nouvelle douleur dans le dos de Rain. Le garçon émit un bruit interrogateur, puis il reposa la tête sur l'épaule du jeune homme. Des sanglots désespérés, silencieux, le secouèrent. Rain le tapota d'une main boueuse et prononça les paroles vaines, inévitables. « Eh bien, je suppose qu'on devrait essayer de sortir de là. »«
Comment ?»
demanda le garçon. « Il va falloir creuser pour élargir cette trouée et te pousser par en dessous. Ensuite, tu grimperas sur le fût. » Il haussa les épaules. « De là, on verra ce qu'on peut faire. Appelez à l'aide, j'imagine. »«
Et vous ? Vous êtes enfoncé drôlement profond ?»
Rain essaya de remuer les pieds. Le garçon avait raison. La vase qui avait envahi la salle la nuit dernière se tassait. Depuis les cuisses, il était englué dans une épaisse bouillie d'eau et de terre qui lui alourdissait les jambes. « Une fois que je t'aurai fait monter, je pourrai m'extirper de là, alors je te rejoindrai sur le fût. » Le mensonge lui vint facilement. Selden secoua la tête.
« Ça ne marchera pas, ni pour l'un ni pour l'autre. Regardez, ça fond !»
Il lâcha le coude de Rain et tendit une main crasseuse. La mince tranche de jour creusait un puits de lumière dans la salle obscure. Des particules y dansaient telles des atomes de poussière, mais ces particules tournaient en volute dans un singulier courant de vapeur ascendant. Et il flottait dans l'air une odeur désagréable et caractéristique.
« Ça sent comme les mains quand on a joué avec des couleuvres !»
fit observer Selden.
« Mais ça pue encore plus !»«
Tiens-toi bien à moi. J'ai besoin de mes deux mains. » répondit Rain. Ce n'était pas l'espoir d'en réchapper qui le poussa à fouir la boue comme un chien. Il voulait seulement voir ce qui se passait. La grande plaque du dôme qui les avait abrités laissait passer la lumière, mais le cristal était trop encrassé pour qu'on puisse distinguer à travers. Il voulait avoir une vue claire. Il s'était interrogé trop longtemps pour laisser passer cette dernière chance de savoir enfin. Aussi est-ce par poignées entières qu'il retira la vase dans leur repère, sans prendre garde qu'il s'enterrait plus profondément lui-même. Il élargit l'orifice et écarquilla les yeux. La lumière frappait le coin supérieur du fût, le plus proche de lui. Le bois se liquéfiait en bouillonnant puis fondait, comme l'écume de mer laissée sur la grève quand la marée se retire. C'était incompréhensible. Le soleil n'avait jamais affecté les madriers de bois sorciers exhumés de la cité. Les vives nefs ne fondaient pas au soleil.
« Parce que les vives nefs sont mortes !» chuchota une voix dans sa tête. « Mais pas moi, je suis vivante !»
Le processus n'était pas rapide. À mesure que le soleil montait, le puits de lumière se déplaçait sur le bois sorcier, en laissant dans son sillage une substance poisseuse qui faisait des bulles. Lorsque le soleil fut au zénith et qu'il donna plus fort, la réaction s'accéléra. Le bois fumait comme de la bouillie sur le feu. La puanteur de reptile devint plus intense. Selden finit par se lasser d'observer le phénomène. Il avait faim, soif, froid, il était fatigué. Ainsi que Rain, mais d'une certaine façon, l'inconfort lui importait peu. La mort de Malta avait engourdi son instinct de conservation. Ils avaient peu de chances de survivre. Il avait du mal à se secouer, mais le bois sorcier qui fondait finit par l'y forcer. Alors que l'immense fût bouillonnait et se déformait, la lourde plaque de cristal appuyée contre le bois et bombée au-dessus d'eux commença à ployer vers le bas. S'il ne bougeait pas maintenant, c'était la noyade. Il souleva plus haut le garçon, qui se tortilla dans ses bras de telle sorte qu'il fut sur le dos quand Rain le projeta par la trouée qui se refermait. En tendant les mains, Selden s'agrippa au bord du morceau de plafond, et il se tira de dessous la plaque. En se contorsionnant sur le ventre, baignant dans la vase, il parvint enfin à se hisser sur la plaque de cristal. Maintenant, c'était au tour de Rain. Il devait faire vite car le poids du garçon sur le panneau le faisait enfoncer dans la fange. Des bras et des mains, il creusa à la manière d'une tortue de mer qui se débat pour nicher dans le sable. Il sentit ses pieds sortir de ses bottes. Il plongea les mains dans la vase pour déboucler sa ceinture d'outils et se tortilla pour s'en débarrasser. Barbotant, pataugeant, il sortit en crabe de dessous le bord incurvé de la plaque de cristal. Il fut obligé de plonger la figure dans la boue pour passer dessous. Quand enfin il eut émergé de l'autre côté, il dut se retourner et s'en rapprocher. Enfin, il se hissa péniblement jusqu'à la surface lisse et convexe du cristal. Selden l'aidait de son mieux, l'agrippant au poignet et tirant de toutes ses forces. Dans un ultime effort, Rain se laissa tomber lourdement sur le fragment de plafond. Pendant un moment, il resta à plat ventre, pantelant. Puis, la plaque, après une brève secousse, commença à s'enfoncer. Il espéra que la bulle d'air emprisonnée dessous ralentirait le processus. Il ouvrit les yeux, leva la tête. Selden, muet d'ébahissement, s'accrocha à lui. À côté d'eux, le fût de bois sorcier qui fondait ne dégouttait pas dans la vase. Il se liquéfiait et se résorbait. Enchâssé à l'intérieur, se révélait à présent la forme étique et vrillée d'un dragon. Le bois fondait et flottait autour de lui. Le puits de lumière éclairait un miracle. Sa peau absorbait le liquide et son corps se gonflait. Il passa du noir au bleu profond. Les os, les muscles atrophiés, la peau se gorgeaient de vie et prenaient chair. Il remua faiblement dans les lambeaux de sa chrysalide. Il se contorsionna et Rain eut un premier aperçu de ses ailes. Elles étaient repliées sur son dos. On aurait dit des baguettes et du papier mouillé. Il fit un effort pour en déployer une. Elle était légère. Une membrane pellucide s'étira sur un os grêle ou un cartilage blanc. Il leva son mufle, renacla, puis ouvrit brusquement l'autre aile. Elle était immense. Elle claqua sur les restes de bois sorcier fondu et sur la vase qui l'entourait. Maladroitement, le dragon roula de droite à gauche en essayant de poser ses pieds. Il prit appui sur ses ailes neuves comme sur des béquilles, éclaboussant les deux humains dans ses efforts pour se redresser. Il assouplit son long col, dressa sa tête à l'aveuglette vers la lumière et ouvrit la gueule comme pour boire la lumière. D'épaisses paupières blanches recouvraient ses yeux. Sa tête oscillait sur son cou tandis qu'il cherchait la lumière. Il remua de nouveau pour révéler une immense queue enroulée sous son corps. Les débris de bois sorcier se dissolvaient rapidement. La boue grasse prenait déjà sa place en clapotant. Rain observait, sans pouvoir réagir. Le dragon allait être englouti avant d'avoir jamais volé. Alors, dans un bruit de toile trempée qu'on déferle, il souleva ses ailes maculées. Il les agita gauchement et une lourde odeur de reptile flotta au-dessus de Rain et de Selden. Des veines palpitantes saillirent brièvement dans la membrane étirée des ailes. Puis, telle la teinture versée dans l'eau, la couleur s'y répandit. D'abord transparente, puis translucide, les ailes prirent une teinte d'un bleu profond, étincelant. Le dragon les remuait lentement par saccades. Rain les voyait gagner en vigueur. Soudain, il ouvrit les paupières. Ses yeux avaient des reflets d'argent. Il s'examina.
« Bleu, pas argenté comme je l'avais rêvé. Bleu !»«
Tu es beau !» souffla Rain.
Le dragon sursauta au son de la voix. Il enroula le cou pour scruter intensément Rain et Selden. Le garçon se blottit précipitamment, se faisant un rempart du corps de Rain.
« Il va nous manger !»
gémit-il.
« Je ne crois pas !»
dit l'autre dans un souffle. « Mais reste tranquille, ne bouge pas !» Le gamin demeura collé à son flanc. Rain l'entoura doucement de son bras pour le rassurer. Il gardait les yeux rivés sur le dragon. La queue se déroula et traça un sillon à la surface de la boue vorace. Tout à coup, il rejeta la tête en arrière et trompeta. Le glapissement résonna dans les oreilles de Rain comme dans sa tête. Le triomphe, le défi était dans ce cri qui vint se fracasser sur les confins de la salle. Brusquement, le dragon se dressa sur ses pattes postérieures en aplomb sur la partie charnue de sa queue de serpent. Rain, qui le vit se ramasser, serra plus fort le gamin contre lui. Elle, à demi déployée, la créature bondit soudain vers la crevasse du plafond. Sa tête heurta contre les fragments du dôme et il retomba en arrière. Mais il s'était agriffé brièvement au bord de l'orifice et il entraîna dans sa chute une portion composite de terre et de racines. Rain et Selden furent secoués par le battement de ses ailes et l'éboulement. Le déplacement de la boue fit pencher leur îlot vers le dragon. Rain s'agrippa désespérément à la surface lisse qui menaçait de les faire basculer sous les énormes pattes fouilleuses. Il reprit son élan. Rain étreignit le garçon en tâchant de rester sur la plaque. Le dragon bondit une seconde fois et passa la tête à travers l'orifice. Ses pattes antérieures s'accrochèrent au bord. Son corps gigantesque se balança un moment. Il battit des pattes postérieures, fouetta de la queue et faillit bien cingler les deux humains. Les ailes tassées contre le plafond l'empêchaient de sortir. Dans un bruit déchirant, le reste de la voûte s'effondra. Le dragon retomba sous une avalanche de débris, de poussière, de terre, entraînant un arbre tout entier qui vint buter hors d'aplomb contre la percée. Le dragon atterrit lourdement sur le flanc.
Selden s'efforça de se dégager de l'étreinte de Rain. « Si on arrivait jusqu'à l'arbre, on pourrait sortir !»
s'écria-t-il. Il montrait le tronc incliné et les branches qui formaient un pont vers la surface.
« Pas tant qu'il se débat, il va nous piétiner. »« Mais si on reste ici, il va nous piétiner de toute façon !»
cria Selden.
« Il faut essayer !»«
Ne bouge pas !»
lui ordonna Rain et il le força à se baisser. Le garçon se mit à geindre contre sa poitrine alors que le cristal penchait davantage. Le dragon bondit une nouvelle fois. Il poussa l'arbre en le labourant de ses griffes et atteignit le bord du trou élargi. Il faisait écran à la lumière. Il s'accrochait, ruait, se démenait. Le bout de sa queue effleura Rain, déchira le tissu épais de sa culotte, lui arracha la peau du mollet. Il rugit de douleur sans lâcher le gamin. Des mottes de terre, des racines éparses, des morceaux de plafond pleuvaient autour d'eux tandis que le dragon coincé s'acharnait à sortir de sa tombe. La lumière réapparut et son corps agité de soubresauts se profila au-dessus d'eux. La queue les balaya et les cingla violemment tous les deux. Ils furent projetés de leur îlot de cristal dans le bourbier.
Ils retombèrent sur l'eau qui surnageait, puis se sentirent rapidement aspirés par la boue.
« Étale ton poids !»
ordonna Rain. Il écarta les membres, espérant flotter à la surface un peu plus longtemps.
« Il va retomber et nous écraser !»
gémit Selden. Il s'accrochait à Rain, essaya instinctivement de grimper sur lui. Celui-ci le repoussa durement. « Étale-toi à la surface et prie » cria-t-il. Ce qui restait du dôme s'écroula. Les débris se mêlaient à la terre. Des arbustes, des fougères géantes, des roseaux s'écrasaient au sol.
« Il va y arriver !»
rugit Rain, alors que le dragon hissait sa cage thoracique sur le bord du trou. Il entendit son glapissement de triomphe. Il fut surpris par la joie qui explosa dans son cœur. Après une ultime averse de mottes et de débris, le soleil inonda la salle en ruine. La longue queue cingla l'air et disparut. Rain entendit un dernier rugissement et sentit le souffle des ailes qui battaient frénétiquement. Il ne le vit pas prendre son essor, mais il le sentit dans son cœur. Le calme revint après son envol. Il était parti.
Les larmes ruisselaient sur le visage de Rain. Il leva les yeux vers la petite fenêtre de ciel bleu. Le dragon était peut-être le dernier de sa race, mais du moins volerait-il avant de mourir.
Rain, Rain!
Il y avait de l'exaspération dans la voix de Selden. Il tourna la tête dans la direction de l'appel, puis cligna les yeux pour accommoder sa vue. Le gamin s'était sorti du cloaque et hissé sur un gros monticule herbeux qui avait atterri tout droit dans la vase. Debout, il montrait du doigt un lacis de racines qui pendillait du plafond.
« Je crois qu'en faisant un gros tas de débris, je pourrais attraper ces racines, grimper et aller chercher du secours. »
Il lançait des coups d'œil autour de la salle, plein d'espoir. Outre les fragments de cristal, des morceaux de vieilles charpentes et des troncs d'arbres flottaient à la surface de la vase. Sans se soucier de la boue et de l'eau, Rain se retourna sur le dos et réfléchit. Les racines n'étaient pas épaisses, mais le garçon ne pesait pas lourd.
« Je crois que tu as raison, » concéda-t-il.
« Peut-être allons-nous nous en sortir vivants après tout. » Il se remit sur le ventre et barbota jusqu'à Selden. Il agrippa une touffe d'herbe, s'extirpa du bourbier pour mettre pied sur la terre ferme. Selden demanda
« Vous croyez que Malta s'en est sorti aussi ?»«
Peut-être. » Il pensait mentir, mais en prononçant ces mots, il sentit son cœur s'élever. Et il comprit que non seulement il espérait, mais il croyait cela possible. Après l'envol du dragon, tout paraissait possible. Comme en écho à sa pensée, il entendit sa trompette lointaine. Il entrevit un éclair d'un bleu intense sur le ciel.
Si ma mère et mon frère le voient et l'entendent, ils sauront d'où il vient. Ils vont partir à notre recherche et nous envoyer du secours. Nous allons vivre.
Selden croisa le regard de son aîné.
En attendant, essayons de sortir par nous-mêmes,
proposa-t-il.
Après tout ce que nous avons subi, je ne veux pas être sauvé par quelqu'un d'autre. Je veux y arriver moi-même.
Rain lui fit un grand sourire et hocha la tête. Tintaglia vira sur l'aile au-dessus de la vallée du fleuve des pluies. Elle goûta l'air d'été, riche des odeurs de la vie. Elle était libre, libre. Elle battit vigoureusement des ailes, les fit claquer plus que nécessaire, simplement pour le plaisir d'éprouver sa force. Elle monta dans le jour bleu d'été. Elle s'éleva là où l'air était rare et glacé. Le fleuve devint un fil d'argent étincelant dans la tapisserie verte au-dessous d'elle. Elle pouvait puiser dans sa mémoire les expériences de tous ses ancêtres, mais elle savourait pour la première fois son propre vol. Elle était libre désormais, libre de créer sa propre mémoire, sa propre vie. Elle descendit en décrivant des cercles nonchalants,
considérant tout ce qui s'étendait devant elle. Elle avait une tâche à accomplir, une tâche qu'elle était seule à pouvoir mener à bien. Elle devait trouver les jeunes, les protéger et les guider dans leur migration pour remonter le fleuve. Elle espérait qu'il restait des survivants. Dans le cas contraire, elle serait en vérité la dernière de son espèce. Elle s'efforça de chasser les humains de son esprit. Ce n'étaient pas des anciens qui, eux, connaissaient les mœurs de sa race et vouaient aux dragons le respect qui leur était dû. C'étaient des humains. On ne leur devait rien, à ces êtres-là. C'étaient des créatures de quelques souffles à peine, avides de manger et d'engendrer avant que leur bref séjour terrestre ne s'achève. Que peut-on devoir à une chose qui meurt et pourrit plus vite qu'un arbre? Peut-on être débiteur d'un papillon ou d'un brin d'herbe? Elle les effleura brièvement de son esprit une dernière fois. Il leur restait peu de temps à vivre. La femelle luttait comme un scarabée dans une flaque, flottant, se débattant dans le courant. Reinhuprus était là où elle l'avait laissé, englué dans la boue, se tortillant comme un ver. Il se démenait dans la salle même où elle avait langui pendant tant d'années. Elle fut émue, soudain, par la brièveté de leur vie. Dans le fugace clignotement de leur existence, l'un et l'autre avaient tenté de lui venir en aide. Chacun s'était détourné un moment de sa quête d'un compagnon pour tâcher de la délivrer. Pauvres petits insectes. Cela ne lui coûtait pas grand-chose à elle, ces quelques instants soustraits à la vaste réserve des années à venir. Elle décrivit une boucle indolente dans l'air exquis de l'été. Puis, d'un battement vigoureux et régulier de ses ailes, elle rebroussa chemin vers la cité ensevelie.
« J'arrive !»
leur cria-t-elle à tous deux.
« N'ayez crainte, je vous sauverai !»